France Culture. La science, CQFD. Natacha Triou.
L'idée est en germe depuis l'Antiquité. C'est un pilier de la science-fiction, le multivers. Ce concept est de plus en plus discuté parmi les physiciens. Vivons-nous dans un univers qui se trouve dans un ensemble infini d'univers ? Avec ce concept, univers s'écrit au pluriel. Il existe des zones d'ombre dans les théories actuelles de la physique. Et c'est là que cette idée intervient. Les multivers émergent comme une tentative de réponse aux questions restées sans solution. Par exemple, si le Big Bang décrit l'expansion de notre univers, il ne dit rien d'avant, ni de pourquoi il est arrivé. La théorie du Big Bang explique tout, sauf le Big Bang. En cosmologie, en physique quantique ou en théorie des cordes, le terme multivers recouvre des notions différentes pour qu'en physique théorique, ces mondes parallèles pullulent-ils. Multivers, le meilleur des mondes parallèles. Jean-Philippe Uzan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cosmologiste, directeur de recherche au CNRS, à l'Institut d'astrophysique de Paris et physicien théoricien au CNRS. Nous serons rejoints très vite, nous étions avec Carlo Rovelli, petit souci technique. Carlo Rovelli qui est physicien et philosophe des sciences, membre senior de l'Institut universitaire de France et cofondateur de la théorie de la gravitation quantique à boucle. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation.
Merci.
Merci, vous êtes dans nos studios en direct sur France Culture. Merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. Vous qui nous écoutez peut-être en nous regardant sur YouTube et qui nous écoutez aussi peut-être en nous suivant sur Blue Sky, comme tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources et sur notre compte @sciencecqfd. Alors d'où vient l'origine du concept de la pluralité des mondes? Qu'appelle-t-on un multivers du point de vue de la physique quantique et du point de vue de la cosmologie? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, pourquoi inventer des mondes parallèles? La question est posée en 1989, c'est notre archive du jour.
Les cosmologistes, ces dernières années, ont inventé des univers fictifs en faisant varier les constantes physiques. Bon, de quelles constantes s'agit-il? Nous savons bien que notre univers physique est régi par quatre interactions fondamentales, la gravitation, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Chacune de ces interactions est décrite par une théorie différente pour le moment, et chacune de ces théories contient des paramètres qui précisent l'intensité de ces interactions. Et personne n'a jamais pu, disons, expliquer la valeur de ces paramètres, comme par exemple la constante de la gravitation newtonienne. Aussi, bon, les cosmologistes ont pris la liberté d'imaginer des univers dans lesquels ils faisaient varier ces paramètres et de regarder ce qui se passait. Bon, les résultats sont assez étonnants. Il semble que des variations même minimes de ces paramètres conduisent à des conséquences importantes du point de vue de notre existence. En ce sens que, bien souvent, le carbone ne peut plus exister, la chimie n'existe plus. Bon, il y a des tas de modifications. Et il semble finalement que parmi tous ces univers fictifs, très peu soient capables de recevoir, disons, la vie humaine. Et la thèse de certains cosmologistes est de dire, bon, supposons qu'il existe une infinité d'univers. Dans la plupart de ces univers, les constantes des interactions fondamentales auront des valeurs différentes des nôtres. Et nous occupons juste un de ces univers où les constantes ont les bonnes valeurs. Par conséquent, il n'y a absolument pas lieu de s'étonner que nous observions ces valeurs. Nous n'aurions pas pu apparaître dans un autre univers. Évidemment, ceci est basé sur une hypothèse extrêmement forte, c'est qu'il existe d'autres univers pour lesquels nous n'avons absolument aucune preuve d'existence, ni aucun moyen évidemment de communication, donc c'est une hypothèse extrêmement forte au stade actuel. Mais il faut quand même remarquer que cette hypothèse d'un univers parallèle a quitté le domaine de la science-fiction et est maintenant dans le discours scientifique.
Voilà un extrait de l'émission Océanique des idées des hommes, des œuvres, diffusée sur FR3 en 1989. Et la voix de Jacques Demarais, maître de conférence à l'Université de Liège. On l'entendait dans cette archive, Jean-Philippe Uzan. Les univers parallèles sont dans les discours scientifiques. Nous sommes en 1989. Aujourd'hui, en 2025, qu'en est-il?
Alors, ils y sont pour de nombreuses raisons. Et en fait, la grande difficulté, je pense que c'est de ça dont on va discuter en partie aujourd'hui, c'est que il n'y a pas simplement une notion d'univers parallèle ou d'univers multiple ou de multivers. En fait, il y en a différentes. Les multivers de la cosmologie ne sont pas toujours les multivers des physiciens de la mécanique quantique. Et c'est ça qui rend un petit peu la discussion difficile. C'est-à-dire que c'est des questions qui sont à la marge parce que, par définition, s'il existe d'autres univers, nous n'y avons pas accès. Nous ne les observons n'observons pas, nous ne pouvons pas faire des expériences dessus. Donc ce sont des univers que l'on va imaginer pour la cohérence théorique d'un certain édifice. Et donc il faut savoir à quel point cet édifice tient la route, parce que en fait c'est lui qui va donner la crédibilité à l'existence de cette de ces autres univers. Mais on voit, et comme la physique est une science expérimentale, et c'est là où il y a vraiment une fracture, je veux dire, dans la communauté scientifique, c'est qu'est-ce qu'on appelle physique et quelles sont les questions à laquelle la physique doit répondre. On est un certain nombre à se dire, ben, la physique est une science expérimentale, elle doit être capable de tester ses affirmations. Si elle n'est pas capable, nous, on tombe dans de la métaphysique. Et cette fine frange entre physique et métaphysique est quelque chose qui a toujours bougé au cours de l'histoire de l'histoire humaine, parce que certaines idées que l'on ne pensait pas testables sont devenues testables avec les progrès de la science. Et puis, certaines fois, des questions qui étaient des questions de physique, eh bien, on a fait des mesures, elles sont sorties en dehors du champ scientifique. Donc, on voit que c'est une zone grise entre physique et métaphysique.
Bah, justement, ces questions qui flirtent avec la métaphysique, c'est aussi quelque chose qu'on entendait dès cette archive, une archive qui évoque ce problème du réglage fin des lois de la nature, ce qu'on appelle aussi le fine-tuning en anglais.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est un des arguments. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous avez des théories de la nature, quelles qu'elles soient, ces théories font intervenir des nombres que l'on ne connaît pas, ce sont des constantes fondamentales. Et comme ces lois mathématiques, en fait, on pourrait donner n'importe quelle valeur à ces constantes fondamentales. Donc, en fait, elles contiennent un ensemble d'univers potentiels, d'univers imaginaires. Et nous, on les utilise en tant que théoriciens, de temps en temps, pour faire des expériences de pensée. On se dit, ah tiens, si la gravitation était 100 fois plus forte que la force électromagnétique, ou 1000 fois, ou 10 000, ou 100 000 fois, qu'est-ce qui se passerait? Donc, on sait que la gravitation est extrêmement faible, et ça a une conséquence. Si vous prenez des particules élémentaires et que vous en faites des tas pour faire des planètes et des étoiles, comme la force de gravitation est très faible par rapport aux forces de répulsion qui sont électromagnétiques et nucléaires, on peut entasser un très grand nombre de particules pour faire des objets macroscopiques. Eh bien, si la gravitation était énormément plus forte, eh bien cet objet se transformait en trou noir au bout de quelques particules entassées les unes sur les autres. Et donc, il ne pourrait pas y avoir de planète, il ne pourrait pas y avoir d'étoile. Donc, on voit que ces paramètres sont libres, on les mesure en laboratoire, et une fois qu'ils sont mesurés, on arrive à expliquer l'existence de structures complexes, comme des planètes, des étoiles, des êtres vivants. On arrive aussi à expliquer que l'univers n'est pas trop petit, n'a pas une vie trop grande. Et en fait, on arrive à la conclusion que nous sommes dans un univers qui est grand, qui est vieux, et dans lequel il existe des objets qui ont de grandes tailles. Et ça, en fait, ça reflète que certaines forces de la nature ont des réglages très très fins. Si on changeait un petit peu l'intensité d'une de ces forces par rapport aux autres de quelques pourcents, eh bien ces structures ne pourraient plus exister.
Tout ça, c'est passionnant. On va consacrer très prochainement une émission entière consacrée sur ce sujet. Jean-Philippe Usan, on va parler ensemble voilà, de la multiplicité de multivers selon les domaines et leurs différences de saveurs. Mais un peu d'histoire pour savoir quand même d'où vient l'origine du concept de multivers. Alors, ça apparaît dès l'Antiquité avec Anaximandre, mais j'aimerais qu'on attende Carlo Rovelli avant de parler de ce savant, de ce pré-socratique, dont Carlo Rovelli est l'un des fameux amoureux. On peut faire un petit saut dans le temps et arriver au Moyen-Âge, Jean-Philippe Usan.
Alors, on pourrait partir à n'importe quelle période, en fait. Moi, je crois que... Alors ça dépend un petit peu aussi de la façon dont on voit l'histoire de la pensée. Moi, j'aime bien parler de Copernic, en fait, parce que avant Copernic, en fait, l'univers est assez, entre guillemets, simple. La Terre est au milieu du monde et ce monde est restreint aux planètes du système solaire qui est contenu à l'intérieur d'une bulle, la voûte céleste, sur laquelle sont déposées les étoiles. À partir du moment où Copernic déloge la Terre de ce centre et que l'on a un modèle héliocentrique, eh bien, on peut commencer à spéculer. C'est-à-dire que nous ne sommes pas a priori une place, nous n'avons pas une place particulière dans l'univers, nous ne sommes pas au centre de l'univers. Et donc, on peut imaginer que toutes les étoiles ont des planètes, qu'éventuellement, sur ces planètes, il y a de la vie. C'est ce que va faire Giordano Bruno. C'est une sorte de, en fait, il tire les conséquences ultimes de la théorie de Copernic. Toutes les étoiles sont identiques, puisque la Terre est une planète comme les autres. Eh bien, le Soleil est probablement une étoile comme les autres, il pourrait exister de la vie ailleurs. Donc ça, c'est une première étape.
Première étape, et nous venons enfin d'être rejoints par Carlo Rovelli. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous. On est en train de parler de l'histoire, de l'origine du concept, de cette idée de multivers. On vient d'évoquer Copernic, on vient d'évoquer Bruno, le philosophe italien mort brûlé en 1600 à Rome. Je vous attendais pour parler de ce philosophe Anaximandre. Vous le connaissez bien puisque vous avez écrit un livre sur lui, Anaximandre de Milet, la naissance de la pensée scientifique. On peut le considérer comme l'un des pères de la notion des mondes multiples.
Ah ben non, ça c'est un peu trop, je dirais. On peut très en arrière. Oui, bien sûr, il a une... moi, je dirais c'est un peu un des pères de l'interprétation naturaliste du monde, de l'idée de chercher des images du monde en termes des choses du monde, pas en termes des dieux ou de choses religieuses. Et il a une étonnante idée que la Terre n'est pas au-dessous de nos pieds et le ciel n'est pas au-dessus de notre tête, mais le ciel c'est tout autour de la Terre. Donc c'est comme son regard commence à voir, c'est le premier, au moins le premier qui arrive à convaincre les autres de ça, le premier à regarder la Terre de l'extérieur. Donc dans ce sens-là, il y a un élargissement de la vision du monde très remarquable. C'est la première révolution cosmologiste et donc il décrit un monde beaucoup plus grand de ce qu'on pensait avant. C'est tout petit pas vers l'idée que nous connaissons seulement une petite partie du monde.
Et puis il développe aussi son concept, ce concept d'apéron, Carlo Rovelli, qui signifie littéralement l'illimité.
Oui, moi je trouve que nous n'avons pas le livre de l'Aximandre, nous avons beaucoup de des formations sur lui par des autres, et donc nous connaissons un peu ses idées. Moi, je trouve pas que l'apéron c'est la partie plus intéressante de ce qu'il parle. Il a plein d'idées sur la cosmologie, comment le monde est fait. Il a des idées sur les animaux, il a des idées sur les causes des choses, il a des idées sur la météorologie. L'apéron c'est assez vague. Mmh. C'est une idée que tout est fait de substances. Ce qui est intéressant de l'idée de l'apéron, c'est que à différence d'autres de son temps, par exemple son maître Thalès, suggère que lui aussi que tout pourrait être fait de la même chose, des modifications de la même chose, et que ce soit l'eau la substance principale. Puis d'autres vont suggérer l'air, d'autres vont suggérer une mixture de substances. L'intéressante de l'apéron, c'est que ce n'est pas une des substances qu'on connaît. Mmh. C'est pas l'eau, le fer, l'air. Donc c'est un peu, en certain sens, au premier terme théorique. Non, les physiciens maintenant utilisent beaucoup, n'expliquent pas les choses en termes de choses qu'on connaît, mais en posant des hypothèses d'entités théoriques avec lesquelles on arrive de façon scientifique à prédire des choses et avoir des résultats. Donc l'apéron, c'est la première entité théorique dans un certain sens.
Et pour tout comprendre de la pensée d'Anaximandre, je renvoie nos auditeurs à notre podcast que nous avions consacré ensemble, Anaximandre, avant-gardiste. Par la suite, plus tard chez Démocrite, chez Épicure, il n'y a pas que les atomes qui sont en nombre illimité, les mondes aussi semblent l'être. Jean-Philippe Usan, quels ont été ensuite au cours de l'histoire, comme ça, les grands noms, les grands précurseurs de cette idée de multivers?
Je crois qu'au départ, la question se pose avec le fait de savoir si l'univers est infini. Et je trouve qu'il y a un très beau texte qui est « L'éternité par les astres » d'Auguste Blanqui. Donc là, on est en 1872, hein, il écrit ça de sa prison dans le fort du Taureau, là, dans la baie de Morlaix. Et en fait, bon, c'est un homme politique, il a été emprisonné à cause de ses idées voilà, qui ont mené à la Commune de Paris. Mais il connaissait aussi la science de son époque. Il savait que les objets étaient faits d'atomes, d'éléments fondamentaux. On commençait à comprendre en fait la constitution de la matière. Et il se dit, en fait, si l'univers est infini, eh bien, on pourrait les combinaisons d'atomes qui nous composent, en fait, elles sont, il y en a un nombre fini. Et donc finalement, si l'espace est infini, elles doivent nécessairement se reproduire quelque part et de façon très très lointaine. Donc il doit exister d'autres systèmes solaires, il doit exister d'autres Auguste Blanqui, d'autres Natacha Triou. Il y a même un monde dans lequel c'est moi qui vous interviewe et ainsi de suite. Toutes les possibilités, toutes les combinaisons sont possibles puisque l'univers est infini et il met la nature au défi de ne pas reproduire deux fois la même combinaison. Et pour lui, alors c'est ça qui est assez beau, c'est que c'est là où on passe d'une idée mathématique sur un ensemble de briques élémentaires, des combinaisons dans un espace infini, à une pensée complètement émancipatrice. Il dit, en fait, ça veut dire qu'il existe aussi une Terre où la Commune de Paris a réussi.
On aimerait bien connaître
oui,
le port
d'entrée. Ça veut dire que c'est possible. Voilà. Et à la fin, il rejette l'idée parce qu'il dit, dans un tel univers, il n'y a pas de progrès. Et on voit qu'il invoque un principe qui n'est pas un principe physique pour pouvoir rejeter ce multivers.
Alors donc en science et particulièrement en physique, le terme de multivers ne renvoie donc pas du tout à la même notion selon qu'on est en cosmologie ou en physique quantique. Quel problème le concept de multivers vient-il résoudre ? Reste à l'écoute.
Qu'est-ce qui se passe ?
Evelyne, je ne suis pas ton mari. Je suis une version de lui dans un autre univers. Et je suis ici parce qu'on a besoin de toi, Evelyne.
Je suis très occupée aujourd'hui. J'ai pas le temps pour ces bêtises.
Dans le multivers, j'ai vu des milliers d'Evelyne avant toi. Tu peux accéder à leur mémoire, leurs émotions et même leurs aptitudes. Une puissante force maléfique a commencé à propager le chaos à travers le multivers. Cette Evelyne n'est pas n'importe qui. Il se pourrait bien que ce soit notre seule chance de sortir d'ici en vie.
N'oblige pas à me battre avec toi, je suis très douée.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Un extrait du film Everything Everywhere All at Once qui s'empare du thème du multivers. C'est ce dont nous parlons en direct sur France Culture avec Jean-Philippe Uzan et Carlo Rovelli. Nous parlons de cette problématique de la non-unicité de l'univers. La diversité des mondes n'est donc pas une invention nouvelle. Nous sommes les héritiers d'un long cheminement de pensée aux ramifications elles-mêmes innombrables du côté du multivers de la physique quantique. Le monde quantique est étonnant, contre-intuitif. Le cœur du problème, Carlo Rovelli, c'est celui de l'effondrement de la fonction d'onde, la réduction du paquet d'ondes. On peut revenir ensemble sur ce que permet de décrire cette fonction mathématique.
Oui, ça c'est une des versions de l'idée de multivers. Moi je dirais à l'avance qu'il y en a, il y en a beaucoup de versions de multivers. Il faut pas les confondre. C'est, l'idée du multivers c'est l'idée assez générale qu'il peut y avoir d'autres choses de ce qu'on voit et peut-être beaucoup d'autres choses. Et en mécanique quantique, certains utilise cette idée pour chercher de rendre compte des phénomènes étranges quantiques. Et une façon de penser à l'étrangeté de la mécanique quantique, c'est de penser que dans un certain sens, les choses se passent de deux façons. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. C'est-à-dire, il y a des faits qu'on voit, qu'on regarde. Moi, je vois le résultat de mesure, je vois où sont mes mènes, il y a des faits. Mais quand on veut calculer en mécanique quantique des faits futurs, que va arriver dans le futur, on utilise un calcul probabiliste qui donne la probabilité de ce qui se passe. Et ce calcul, c'est intéressant parce que c'est formulé un peu comme si tout pourrait advenir et après il y a une probabilité de quelque chose qui se passe. Et là, c'est l'idée de la fonction d'onde. Non, je vois un électron, je le vois toujours dans un point particulier. Quand il arrive sur un écran, il fait un point sur l'écran, un point blanc ou noir, ça dépend de l'écran. Ou quand il fait détecter un compteur, on entend un clic particulier dans un endroit. S'il y a plusieurs compteurs, il y a seulement un qui clique s'il y a un électron. Mais quand on fait le calcul, pour voir l'électron a été détecté ici, où va être détecté la prochaine fois, on utilise une onde. Une onde qui est diffusée dans l'espace et qui donne la probabilité de où va se passer la prochaine manifestation de l'électron. Alors certains, pas la majorité, mais certains physiciens cherchent de comprendre cette étrangeté en pensant que l'onde c'est la chose vraie. Et le fait que je vois l'électron dans un seul endroit et pas partout. C'est un effet dérivé. Attention, c'est là la très étrange solution du problème. C'est-à-dire, pourquoi je vois l'électron dans un seul endroit? Parce que moi aussi, je suis une onde. Et donc, mon onde va interagir avec celle de l'électron. Et comme l'électron est diffusé un peu partout, moi aussi, je vais être diffusé un peu partout. Et il y aura une monde, voilà, c'est une onde sur des différents mondes, c'est ça le multivers. Il y a un monde où l'électron est ici et moi je le vois ici, et un autre monde où l'électron est là et moi je le vois là, et etc. Donc il n'y a jamais un effondrement de la fonction d'onde, il y a toujours la fonction d'onde qui devient de plus en plus riche, qui se branche, s'est ramifie dans une multitude d'univers possibles, et pour certains, cela pourrait être une façon de rendre compte de l'étrange apparence de la probabilité mécanique quantique.
C'est que là, on a l'interprétation de Copenhague, l'interprétation principale, on peut dire même orthodoxe, de la mécanique quantique face à ce problème, où en fait c'est l'observateur qui provoque le collapse, le simple fait de mesurer un système quantique, ça fait s'effondrer la fonction d'onde vers un état définitif unique. Et ça, il y a eu en effet d'autres interprétations, notamment celle de Hugues Everett, Jean-Philippe Usan.
Donc, comme l'a dit Carlo, en fait, un des grands problèmes, c'est de comprendre le lien entre la description du monde par la mécanique quantique et la mécanique classique. Alors, la mécanique classique, c'est ce qui nous, voilà, c'est celle qu'on utilise tous les jours dans notre vie quotidienne. Et est-ce que cette mécanique classique est aussi réelle que la version du monde que nous donne la mécanique quantique? Est-ce que il y a le basculement de l'une vers l'autre? Alors, dans l'interprétation de Copenhague, en fait, on fait une distinction fondamentale entre le monde classique et le monde quantique. Et au moment où on fait une mesure, en effet, il va y avoir un basculement, là, il va y avoir cette réduction du paquet d'ondes. Et en fait, si on avait une fonction d'onde qui décrivait plusieurs états superposés, on va avoir simplement une mesure et notre système va être dans un état qui est bien défini et donc compatible avec quelque chose de classique. Mais là, en fait, on voit que ça veut dire que l'évolution de cette fonction d'onde, elle ne se fait pas pareil quand on fait une mesure et quand on ne fait pas de mesure. Ça, c'est ce qui est un petit peu embêtant d'un point de vue de la cohérence théorique. Et donc, ce qu'on peut dire, comme l'a évoqué juste avant Carlo, c'est de se dire en fait, on peut imaginer qu'il va y avoir au moment où je fais la mesure, une bifurcation des mondes, il va y avoir un moment où on mesure l'électron à un certain endroit et un autre monde dans lequel on mesure l'électron à un autre endroit, parce que nous aussi, on va prendre chacune des deux branches, donc le monde se bifure comme ça, mais nous n'avons conscience que d'une de ces branches. Alors que dans l'interprétation de Copenhague, on dit les autres branches n'existent pas, on n'a qu'une mesure, elles n'existent pas. Là, on dit toutes les branches existent, mais nous n'avons conscience que d'une d'elles, celle dont nous sommes en train de discuter, et donc les autres ne sont pas observables. Donc, vous voyez, il y a déjà au niveau même ontologique de dire qu'est-ce qui existe, il y a quelque chose de radicalement différent, puisque soit on dit que toutes les possibilités continuent à exister, et donc on a une sorte de structure qui est très difficile à décrire et même à imaginer, où on a toutes ces branches à chaque fois qu'on fait une mesure, et ce qui va être encore plus compliqué, c'est qu'il va falloir définir ce que l'on appelle une mesure.
Oui, c'est le concept de, enfin, le principe de subjectivité ou d'objectivité qui est au centre de ce débat. Alors là, ce que vous venez de décrire, c'est la théorie des mondes multiples qui a été formulée par le physicien américain Hugues Everett en 1957. Le concept d'effondrement de la fonction d'onde est donc bien au cœur de l'hypothèse des mondes multiples, en scindant la réalité en multiples bifurcations à chaque instant. Cette idée vertigineuse est mise en scène au sein de l'exposition Sensations quantiques à la Maison des mathématiques. Pour le reportage du jour, nous partons la visiter. C'est avec vous, Céline Lausanne. Bonjour.
Bonjour Natacha. Oui, aux côtés du physicien Charles-Antoine, maître de conférence à Sorbonne Université et chercheur au LPTMC, qui nous amène à nous interroger sur la représentation sensible du concept d'effondrement de la fonction d'onde qui est au seuil de l'hypothèse des mondes multiples de Hugues Everett. Dans cette exposition conçue par l'artiste Caroline de l'Étoile, la philosophe Céline Boisserie-Lacroix et la physicienne Aurore Jung du LKB, le vertige des mondes multiples se ressent par des représentations artistiques qui donnent à ressentir intimement ce que recouvre cette réalité quantique si intangible à notre échelle.
Dans cette exposition Sensations quantiques, il y a Un film qui montre en particulier cette explosion de monde, ces mondes multiples qui surgissent, un peu comme des particules qui surgiraient du néant, surgiraient du vide, ce fameux vide quantique qui est un peu créateur, un peu comme une pouponnière de monde. Il y a plusieurs extraits vidéo où on a vraiment cette sensation
très profusionnelle.
Complètement.
Quantité qui jaillisse.
Voilà, la corne d'abondance de monde. Donc évidemment, c'est de façon métaphorique, ce sont des images, c'est artistique, mais ça donne un peu cette impression de rendre encore plus intuitif cette explosion des mondes multiples de la physique quantique, mais plus généralement de cette multiplicité de compréhension et d'interprétation de la physique quantique.
L'idée des mondes multiples qui a été, on va dire, plus ou moins instaurée dans les années 50 par Hugues et Everett. Il y a aussi les allégories et métaphores, les expériences de pensée. Et vous qui êtes un spécialiste de Schrödinger, il y a cette fameuse expérience de pensée qui permet d'avoir une intuition de cet état de superposition.
Exactement, par rapport à l'expérience donc de Schrödinger, l'expérience de pensée de Schrödinger en 1935 sur son fameux chat de Schrödinger, donc une expérience imaginaire de pensée, bien sûr, visait à imaginer un stratagème, un processus où, alors un peu diabolique, hein, parce qu'il y avait un chat qui était dans un état de superposition de vie et de mort, mais un stratagème qui permettait de coupler, d'une certaine façon, une particule radioactive, tueuse, et un chat. Et par ce jeu mathématique de la superposition quantique, on obtient mathématiquement le résultat que le chat doit être, lui aussi, dans un état superposé de vie et de mort. Et cette décohérence, cette théorie donc de la décohérence, a montré comment des superpositions d'états quantiques se réduisaient à un ensemble de possibilités classiques. Mais attention, la décohérence n'a pas réussi à expliquer pourquoi ces différents résultats classiques qu'on observe dans notre monde étaient obtenus de façon aléatoire.
Alors en quoi justement cette idée, cette hypothèse des mondes multiples, donc qui génère des bifurcations à chaque fois qu'il y a un état qui est observé ou mis en évidence, serait une solution satisfaisante à ce problème de discontinuité entre les échelles?
Eh bien, en fait, ce qu'a voulu montrer Schrödinger et cette question de la réduction, ce qu'on appelle aussi donc l'effondrement, la réduction des différentes superpositions quantiques à des états individuels.
À l'issue d'une observation, d'un axe de mesure.
Exactement, à l'issue d'une mesure, d'une observation, donc avec un processus physique qui, au début, on ne savait pas vraiment s'il fallait un observateur conscient, un être conscient au bout de la chaîne qui prenne conscience de l'observation, du résultat. Aujourd'hui, il y a une sorte de consensus quand même pour dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un être conscient, même si ce n'est pas encore complètement clos. Mais donc sans être conscient, donc un appareil physique de mesure, d'observation qui va interagir avec le système qui est dans une superposition quantique, qui va donner un seul des différents résultats possibles qui étaient dans la superposition de départ. Et l'interprétation des mondes multiples d'Everett permet de s'affranchir de cet aléatoire pur. Parce que l'équation de Schrödinger, le formalisme mathématique, ne permet pas de comprendre ça. Le rôle de l'observateur est questionnant, mais la décohérence nous appelle quelques réponses partielles. Mais c'est l'aléatoire pur qui nous a permis, mais a posteriori, de comprendre la démarche de Hugues Everett afin de donner un sens plus acceptable par les physiciens que cet aléatoire pur qui, de par sa pureté, ne peut avoir qu'une origine quasi divine. Et donc, dès que vous parlez de quasi-divin pour les scientifiques, ça les met très mal à l'aise. Et donc, cette interprétation des mondes multiples qui stipule que, au lieu qu'il y ait une réduction, qu'il y ait un effondrement, c'est-à-dire qu'il y ait une superposition d'états quantiques qui se réduisent à un seul état classique possible, eh bien, que chacun des états potentiels de la superposition quantique sont tous obtenus, mais dans des mondes distincts, différents, complètement différents d'une autre.
Donc à chaque instant, à chaque état quantique qui se réduit, il y a autant de mondes possibles.
Exactement.
Qui sont régis par les mêmes lois.
Et c'est complètement ça. C'est-à-dire, on sacrifie la simplicité du monde par une multiplication des mondes à chaque instant, à chaque fraction d'instant, parce que ce sont des milliards de milliards de milliards d'explosions de mondes parallèles, de mondes multiples complètement déconnectés, causalement déconnectés, qui apparaissent constamment à l'issue de mesures, alors pas forcément d'issue de mesures créées par les humains, mais n'importe quelle interaction finalement joue le rôle de mesure, et donc à chaque instant c'est une explosion infinie de mondes, mais cette explosion infinie de mondes complètement déconnectés, donc auxquels on n'a pas accès, est plus simple, philosophiquement parlant, pour les scientifiques, que d'accepter que cet aléatoire pur qui arrive lors de la mesure et de la réduction d'une superposition quantique à un seul état, que cet aléatoire pur résulte de quelque chose qui nous transcende. Et qu'est-ce qui nous transcende? C'est du divin ou du quasi-divin. Et donc c'est très amusant de voir qu'au cours des décennies, cette interprétation des mondes multiples, qui était au début une interprétation comme une autre, et puis petit à petit elle a pris une énorme importance, et aujourd'hui c'est l'interprétation majoritaire chez les scientifiques de la physique quantique.
Alors c'est acceptable, mais est-ce que c'est satisfaisant pour un esprit humain de se figurer une infinité de mondes possibles, et du coup de versions de nous-mêmes possibles, de réalités alternatives ? Des réalités où vous vous êtes plutôt, je ne sais pas, jardinier ou cuisinier ?
Ah, exactement, il y a ça, c'est-à-dire qu'on a toutes les versions de nous-mêmes, les copies de nous-mêmes, les interprétations de nous-mêmes existent simultanément dans une multitude, une infinité de mondes parallèles. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu la physique quantique pour voir ça. Depuis l'Antiquité, depuis Démocrite, Épicure, etc., avec la notion d'atome, ils l'écrivaient déjà, que cette multiplicité des atomes était comme une multiplicité des mondes. Et donc cette notion de monde multiple, en fait, elle date de l'Antiquité, en Occident et évidemment en Orient, chez les anciens Grecs et Indiens. Mais par contre, c'est clair que finalement, la superposition quantique est beaucoup plus difficile à comprendre, au sens propre du terme, au sens étymologique du terme, à comprendre vraiment que la notion de monde multiple, parce que ces mondes multiples sont beaucoup plus finalement communs, même du point de vue psychique.
Merci Céline Lozen. Tous nos reportages en immersion sont à retrouver en podcast dans la collection La Science au Labo sur votre application préférée. Carlo Rovelli, on l'entendait dans ce reportage, cette proposition qui semble tout à fait déraisonnable séduit une communauté de physiciens théoriciens sérieux.
Non, je pense que c'est un peu exagéré ce qu'il dit dans ce reportage. C'est pas vrai du tout que la plupart des physiciens quantiques qui travaillent avec la mécanique quantique pensent à la théorie dans cette façon. La plupart qui utilisent la mécanique quantique ou qui utilisent, je sais pas, matière condensée, électronique, les étoiles, il y a d'autres façons de voir la mécanique quantique. Celle-ci, c'est une idée, c'est une idée minoritaire, c'est absolument pas une idée majoritaire. Je veux insister sur ça pour ne pas donner des idées fausses au public. Ça peut être fascinant, ça peut faire rêver, mais pas du tout qu'il y a un consensus sur ça dans la communauté des scientifiques. Au contraire, moi je dirais que la communauté des scientifiques n'a pas de consensus sur ça, pas du tout. Moi je pense, mon opinion personnelle, c'est que finalement cette interprétation est basée sur l'erreur initiale de donner plus d'importance à la fonction d'onde, à l'état quantique, qui devrait collapser, se multiplier, exister, blablabla, que non au résultat, au fait réel dans le monde. Et la plupart des physiciens pensent aux faits réels dans le monde, c'est-à-dire aux résultats des mesures. C'est possible de penser au monde comme un ensemble de faits qui se passent, qui sont liés les unes les autres par des probabilités et avec des sauts quantiques de l'une à l'autre, sans jamais parler d'autres mondes. Alors, je ne veux pas défendre une idée par rapport à l'autre, mais je ne veux pas non plus que la transmission, l'émission donne l'idée que les physiciens pensent tous qu'il y a des copies de Carlo et de Jean-Philippe innombrables à ce moment-là. Il n'y a pas de consensus sur ça.
Jean-Philippe Puzon, vous souhaitiez réagir?
Oui, moi je suis d'accord. C'est vraiment pénible d'avoir une infinité de copies de soi-même. mais je suis assez d'accord avec Carlo, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie quand on parle de physique, c'est que la plupart des résultats expérimentaux, on prépare des systèmes pour pouvoir s'affranchir des effets d'environnement. On a des systèmes qu'on appelle des systèmes isolés, et c'est sur ces systèmes-là qu'on essaie d'atteindre le plus proche possible par l'expérience que l'on établit un certain nombre de propriétés, de lois, et que l'on les vérifie expérimentalement. Mais en fait, Dans la vraie nature, tous les atomes sont toujours en interaction, il y a du rayonnement partout. Donc en fait, l'effet de l'environnement est toujours important. Et il doit agir en fait sur l'évolution de la fonction d'onde. On peut pas prendre juste la fonction d'onde d'un électron dans un atome isolé de tout. Il y a un moment en fait où il va y avoir des interactions. Et en fait, ce que l'on peut penser aussi, c'est que ça va être ces effets d'environnement qui vont mener à la décohérence. Et c'est là où il peut y avoir aussi quelque chose qui éventuellement on va pouvoir accéder d'un point de vue expérimental, savoir est-ce qu'on peut observer la façon dont les choses décohèrent par rapport à l'interprétation de Copenhague, où c'est quelque chose d'instantané, parce que quand on interagit avec l'environnement, ben, ça peut prendre un certain temps. Et on peut dire qu'à partir de là, on peut se poser la question de façon expérimentale.
En tout cas, voilà, ce problème de la relation du monde quantique avec le monde classique est un vrai problème de la physique. Alors, qu'est-ce que le concept du multivers du point de vue de la cosmologie? En quoi est-il un corollaire du concept de l'inflation éternelle? Le multivers est-il seulement un moyen d'expliquer des choses qui nous échappent ou constitue-t-il la future nouvelle révolution copernicienne? On y arrive. Perfect World en direct sur France Culture, car on fait le tour des mondes parallèles en compagnie de nos deux invités du jour, Jean-Philippe Uzan, cosmologiste, directeur de recherche au CNRS à l'Institut d'Astrophysique de Paris et physicien théoricien au CNRS, et Carlo Rovelli, physicien et philosophe des sciences, membre senior de l'Institut Universitaire de France et cofondateur de la théorie de la gravitation quantique à boucle. Jean-Philippe Uzan, le multivers pourrait-il être notre future nouvelle révolution copernicienne, comme vous disiez en début d'émission? Il fut un temps où on pensait que la Terre était au centre du cosmos et que tous les autres astres tournent autour.
Alors quand on essaie de modéliser l'univers, il y a cette idée qui est héritée en fait de Copernic, donc cette idée que la Terre n'est pas à une position particulière, de se dire que en fait nous n'occupons pas une position particulière dans l'univers, que toutes les autres galaxies sont aussi bonnes que les nôtres, que la vie pourrait exister ailleurs. Donc en fait, ça c'est un principe de symétrie qu'on va utiliser au cœur en fait de la construction des modèles cosmologiques, donc cette fameuse théorie du Big Bang. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir de ce moment-là, il y a déjà une conclusion importante qui va arriver de ce qu'on a appris en un siècle de cosmologie, c'est que l'univers a un âge fini. Il a 13,8 milliards d'années et que comme la vitesse de la lumière est finie, nous n'observons qu'une petite partie finie de notre univers. C'est ce qu'on appelle notre univers observable. Mais si l'univers est infini, en fait, des univers observables, s'il y a d'autres observateurs quelque part dans l'univers, qu'ils soient de forme humaine ou non humaine, ils vont avoir autour d'eux un univers observable qui va être différent du nôtre, qui va être similaire dans le sens où en fait, s'ils regardent les propriétés statistiques de la distribution des galaxies, elles vont être identiques à celles qu'on a dans notre univers, mais ça ne sera pas exactement le même ciel, et la physique sera la même. Alors déjà, ces différentes zones du même univers que différents observateurs observent, on peut les considérer comme d'autres mondes, au même sens que on parlait d'autres mondes pour les autres planètes à l'époque de Flammarion, par exemple. Ça, c'est la première étape. Et puis, quand on a voulu extrapoler ce modèle de la cosmologie vers des temps les plus reculés, de remonter remonter vers le Big Bang. C'est là qu'est apparue cette théorie de l'inflation dans les années 80. Et parmi les théories de l'inflation, il y a eu cette idée de ce qu'on appelle l'inflation chaotique, c'est-à-dire que si cette inflation partait, elle allait continuer de façon éternelle dans la plupart des zones de l'univers et que nous ne serions qu'une bulle d'univers. Donc là, les univers vont avoir la même physique, mais ils vont avoir des propriétés géométriques différentes. Et si on couple ça en plus avec une théorie qui vous dit qu'éventuellement la physique à basse énergie pourrait dépendre en fait de certains paramètres comme dans la théorie des cordes, alors chacune des bulles pourra avoir une physique différente, des constantes différentes, des lois de la nature différentes. Et là, on a l'outil pour questionner ce que voilà le point que soulignait Jacques Desmarais dans la première intervention, de dire il nous faut une façon de générer des univers avec des physiques différentes.
En effet, on a les Russes André Lind et Alexander Vilenkin qui se posent cette question, qui réfléchissent à cette phase d'inflation. Ils se demandent qu'est-ce qui pourrait y mettre terme. Et Carlo Rovelli, c'est à ce moment-là, en effet, que émerge ce modèle de l'inflation éternelle, un multivers en perpétuelle expansion.
Oui, c'est une hypothèse. C'est une des hypothèses que les cosmologistes sont en train d'étudier. Jean-Philippe est un cosmologue, il connaît ça beaucoup mieux que moi. Là encore, on est dans la possibilité. Ce sont des hypothèses. Moi, je pense qu'il faut faire une distinction entre les hypothèses, les rêves pas très précises et la science. La science, c'est quand la science est ouverte à toutes les hypothèses, à toutes les possibilités, c'est sa nature. Et très souvent, les hypothèses les plus étranges se sont révélées correctes. Mais il faut faire une décision du moment où on a des bons arguments pour y arriver. Et quand on n'a pas de bons arguments. Par exemple, l'univers pourrait être infini. Justement, Jean-Philippe dit que la version la plus simple de multi-univers, celle qui est plus, qui pourrait être plus raisonnable, est tout simplement le fait que l'univers est plus grand de ce qu'on voit. Donc, nous, on arrive à voir quelques milliards d'années-lumière de distance, parce que la lumière, la vitesse finie, elle n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à nous. Mais l'univers pourrait être beaucoup plus grand que ça. Et est-ce qu'il pourrait être pas trop grand? Oui, il pourrait être pas trop grand s'il était fermé, s'il était une espèce de gros boule avec un volume fini. Donc, on a la spéculation que l'univers soit infini, c'est possible, avec toutes les étrangetés de l'infini, mais on a aussi la possibilité que ce soit infini, que ce soit fini. Et ça, c'est possible. Alors, comment on peut voir? On peut faire des mesures. Et ces mesures, pour le moment, sont assez intéressantes, parce qu'imaginons que c'est une espèce de grosse boule, pas une boule comme la surface de la Terre, mais une boule trois-dimensionnelle. C'est-à-dire, imaginons que l'univers est tel que si je pourrais voyager à super vitesse dans une direction, je ferais le tour et je revienne ici, comme sur la Terre. Non, je peux me promener, faire le tour et venir ici. Bon, alors, il devrait y avoir un volume fini et une rayon fini. Est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut mesurer quelque chose sur ça? Ben oui, parce que il y aurait un courbure pour que ce soit nul. Donc, on peut mesurer cette courbure avec des mesures cosmologie. Effectivement, cette mesure est petite. La courbure est petite, celle qu'on voit. Donc, si la courbure est petite, l'univers doit être grand. S'il est fini, la courbure devait être zéro. Alors quelqu'un peut dire, ben, écoute, regarde, ce qu'on mesure est compatible avec zéro parce que la courbure qu'on mesure est petite. Mais il faut faire très attention parce qu'on pourrait faire le même raisonnement sur la Terre. Imaginons que je fais le même raisonnement sur la Terre. Je vais à Paris et je commence à mesurer si la surface de la Terre sous mes pieds est courbe. Je trouve presque zéro. Et donc, je fais la conclusion que la Terre est infinie, est plate. Ben, ça, c'est faux. Parce que la courbure est petite, mais ça veut dire que la Terre est grande. Pas plus que ça. Donc, sur les mesures que nous avons maintenant, on peut dire que l'univers est très probablement au moins, je ne sais pas, Jean-Philippe peut me corriger, au moins 10 fois plus grand de ce qu'on voit, peut-être quelque chose comme ça, si on fait l'assumption de l'homogénéité, etc. Donc voilà, on a là une mesure, une possibilité, on commence à écarter des possibilités, vous savez, pas trop petit, mais on est loin de là de dire qu'on a une évidence d'un univers infini, on a une possibilité d'un univers infini. Et ça c'est... Ça, c'est en général, c'est-à-dire même pour ces théories d'inflation, on a des... Il y a un argument que des gens sortent pour dire, qui utilisent pour dire, bah, finalement, on a une possible évidence de parce que ça s'appelle le fine-tuning, je ne sais pas comment dire en français.
Le réglage fin.
Le réglage fin qu'on évoquait ensemble, en effet, un instant et en première partie d'émission, en effet.
Ah d'accord.
Oui.
Donc on pourrait dire, peut-être on peut comprendre que le réglage fin de paramètres qui sont tels que nous existons, on peut le comprendre, enfin il y a toutes sortes d'univers, et ben voilà, comme il y a toutes sortes, je comprends que moi je suis dans un univers particulier parce que bien sûr, évidemment, je suis dans celui qui porte, qui est sorti de ce réglage fin. Moi je trouve que cet argument n'est pas très bon. Et finalement, c'est de la logique à l'envers. C'est un peu comme dire, tout sont le résultat de notre univers. Donc, bien évidemment, il y a un réglage fin qui amène à nous. Il n'y a rien d'étrange que nous sommes exactement le produit de ces réglages fins. L'argument présuppose un peu que d'autres réglages donneraient des choses... pas intéressante, mais ça, on le sait pas.
Mais ça me fait penser, Carlo Rovelli, je me permets de m'introduire dans votre réponse, parce que ça me fait penser à ce cosmologiste aussi américain qui s'appelle Max Tegmark, et qui parle de ces multivers, et qui va lui aussi un peu plus loin.
Oui, il va encore plus loin. Lui, ce qu'il dit, il a écrit un livre. Max, c'est un personnage très étrange, très bon cosmologue et qui aime rêver beaucoup. Et il a écrit un livre en disant, mais finalement, la mathématique, il y a plein de choses dans la mathématique. Et les lois physiques que nous avons, ce sont finalement des équations de mathématiques, donc un morceau de mathématiques. Alors, pourquoi ne pas penser que toutes les mathématiques possibles décrivent des mondes, chacun de mondes possibles différents, avec toutes les lois possibles différentes, il existe tout. Et voilà, nous sommes dans un de ça. Il y a un philosophe qui s'appelle David Lewis, qui est un des très grands philosophes dans le monde anglo-saxon. C'est probablement le philosophe le plus cité dans les dernières 50 ans. C'est un métaphysicien. Et lui, il va encore plus loin. Parce que lui, il a créé un livre, le titre est « Sur le monde multiple », encore une fois, où ils disent, nous on parle de possibilités, non, nous sommes en train de parler, mais ce serait pu être possible que moi j'aurais pas répondu au téléphone. Donc c'est possible. Alors comment penser à la possibilité de quelque chose qui n'est pas réel? Alors David Lewis dit, ben voilà une suggestion. Imaginons que tout ce qui est possible est réel. Donc finalement, il existe tout le monde logiquement possible. Et nous sommes dans un de ces mondes, et l'actualité, la réalité, ce qu'on appelle réalité, c'est pas la réalité, c'est seulement le monde spécial dans lequel on est. Ça, est une très belle idée, parce que ça rend plus facile parler de ce que possible et non possible veut dire. C'est-à-dire possible, ça veut dire qu'il y a un autre monde dans lequel il y a d'autres choses qui se passent. Mais il a convaincu très peu de gens de commencer à penser que vraiment tout le bon possible serait réel.
Oui, en effet, David Lewis, dans son ouvrage De la pluralité des mondes, paru en 1986, je vous propose une lecture d'un autre ouvrage qu'on a évoqué en toute première partie d'émission, De l'éternité à nos jours, l'hypothèse astronomique d'Auguste Blanqui. Chaque seconde de l'éternité a vu et verra la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire des milliards de terres sosies de la nôtre et portant nos sosies personnelles. Ainsi, chacun de nous a vécu, vit et vivra sans fin, sous la forme de milliards d'alter-ego. Tel on est à chaque seconde de sa vie, tel on est stéréotypé à milliards d'épreuves dans l'éternité. Nous partageons la destinée des planètes, nos mères nourricières, au sein desquelles s'accomplit cette inépuisable existence. Les systèmes stellaires nous entraînent dans leur pérennité. Unique organisation de la matière, ils ont en même temps sa fixité et sa mobilité. Chacun d'eux n'est qu'un éclair, mais ses éclairs illuminent éternellement l'espace. L'univers est infini dans son ensemble et dans chacune de ses fractions, étoiles ou grains de poussière. Tel il est à la minute qui sonne, tel il fut, tel il sera toujours, sans un atome ni une seconde de variation. Il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Tout ce qui se fait, s'est fait et se fera. Et cependant, quoique le même, l'univers de tout à l'heure, n'est plus celui d'à présent, et celui d'à présent ne sera davantage celui de tantôt, car il ne demeure point immuable et immobile. Bien au contraire, il se modifie sans cesse. Toutes ses parties sont dans un mouvement indiscontinu. Détruites ici, elles se reproduisent simultanément ailleurs, comme individualités nouvelles. Voilà ce petit texte rédigé en prison, publié en 1872, un traité astronomico-métaphysique au statut incertain. Jean-Philippe Usan, il y a cette question de l'existence d'un multivers. Comment trouver des preuves de cette existence-là, qui, par définition, est impossible?
Donc je vais rebondir sur ce que disait Carlo juste avant, c'est-à-dire qu'en effet, quand on fait de la physique, on explore. On a des lois qui sont établies et on a des questions et on peut explorer toutes les idées. En fait, on va pas les rejeter a priori. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en transformer ces idées en théorie. Et ça veut déjà dire qu'elles doivent être bien définies. Ça veut dire que si deux personnes font le même calcul, ils vont trouver la même chose, ce qui est pas toujours le cas dans les multivers parce qu'on a des tendances à diviser des infinis par des infinis. Donc, il y a plein de problèmes de savoir ce que prédisent exactement ces théories. Faut donc qu'elles fassent des prédictions non ambiguës et qu'éventuellement, on puisse tester par l'observation ou l'expérience ces prédictions. Et en effet, si on a un accord, eh bien, on va se dire, ben voilà, là, on tient quelque chose. Parce que sinon, en fait, on en reste au niveau du discours et c'est vraiment ça, en fait, un des points forts de, on va dire, de la méthode scientifique, c'est de passer les idées que l'on a au crible de l'expérience pour dire, c'est pas nous qui décidons, c'est pas une opinion, c'est pas une question de goût, c'est une question de ce que la nature nous dit, la façon dont le monde est. Et que pour ça, il faut mettre en place une méthodologie qui est assez difficile, en fait, qui parce qu'elle nécessite des expériences, des comparaisons aux observations. Et juste, voilà, pour finir là-dessus, ce que disait Carlo sur l'espace infini, parce que je trouve que c'est un très, très bon exemple. En effet, aujourd'hui, on a des contraintes sur la taille minimale que pourrait avoir l'univers, parce qu'on a des observations, mais sur une zone finie de l'univers. Et on peut s'amuser à se dire, avec les observations, même les meilleures que l'on aurait, qui ont toujours des barres d'erreur, quelle serait la taille de l'univers le plus petit possible qu'on pourrait détecter? Et en fait, on se rend compte qu'il y a un moment, les observations du fait de toute erreur expérimentale de mesure ne peuvent pas faire la distinction entre un espace qui serait très très grand et un espace qui serait infini. Et que donc là, cette question que l'on peut questionner encore aujourd'hui par l'observation, peut-être que dans un certain temps, on ne pourra plus la questionner et que donc on pourra dire, pour des raisons théoriques, pour des raisons de cohérence, on préfère un espace infini ou un espace fini, mais on ne pourra pas le prouver par l'observation.
Et pour conclure, Carlo Rovi, c'est important de bien rappeler voilà, que le concept de multivers, les concepts de multivers, ce n'est qu'une interprétation scientifique, mais pas une théorie.
Oui, dans le passé, très brièvement, autant de Flammarion qu'on disait, il y a d'autres mondes, il y a d'autres systèmes, d'autres étoiles avec des planètes. Ben finalement, on les a vus. On a des images astronomiques indirectes, donc c'est quelque chose qui a été établi. Et là, il faut faire la différence entre ce qui est établi et ce qu'on rêve et la possibilité qu'il y a de l'établir.
je pensais. Non, mais par rapport à cette idée, Jean-Philippe Usan, sur le fait, parce que là, on discute de cette notion depuis le début de cette émission, depuis bientôt une heure. Quelle est finalement, on dit, voilà, cette idée de multivers, on est à la frontière entre physique et métaphysique, mais finalement, quelle est la scientificité, quelle est l'utilité scientifique de débattre de tout ça?
Alors déjà, elle nous permet d'aborder des questions. Sur lequel on n'est pas tous d'accord. C'est-à-dire, est-ce que on doit expliquer cette histoire de réglage fin? Là, on n'est pas d'accord. Est-ce que c'est une question à laquelle la science doit s'attaquer? Si on décide que c'est le cas, comment est-ce qu'on fait? Et donc, on a vu dans la petite interview de Jacques Desmarais, il nous dit, il faut penser d'autres univers qui pourraient avoir des physiques différentes. Alors, on a des théories qui permettent de faire ça aujourd'hui. Première question, si vous prenez une telle théorie, est-ce que dans l'ensemble des théories à basse énergie que possible? Est-ce qu'il y a un monde comme le nôtre déjà qui existe? Eh bien ça, on ne le sait pas. Donc finalement, on se rend compte que c'est comme une boîte à outils. Ça va nous permettre d'affûter notre façon de penser, d'affûter nos outils et éventuellement de découvrir une réalité qui n'a rien à voir avec la nôtre, ce qu'a fait régulièrement la science. Mais tant qu'on n'a pas fait tout ce parcours, eh ben ça reste une hypothèse.
Voilà, ce sont des questions intéressantes aussi pour la science, celle du futur également. Comme tous les jours, on retrouve Alexandre Morales et sa chronique, mais merci à vous deux. Pour prolonger le plaisir, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à se tourner vers votre livre, Carlo Rovelli, Cette brève leçon de physique, votre best-seller, qui vient de paraître dans une nouvelle traduction. Ça vient de paraître aux éditions Flammarion. Tout de suite, on quitte la physique, la cosmo, pour les facultés fascinantes des corneilles, c'est la chronique avec science.
Les humains sont-ils les seuls à avoir le sens de la géométrie? Vous pouvez laisser de côté les théorèmes de Thalès et de Pythagore, puisqu'aujourd'hui on ne va pas parler de calcul ou de cours de mathématiques, mais bien de reconnaître des formes géométriques. C'est un sujet qui est assez peu abordé en éthologie, la science du comportement animal, mais une publication scientifique de 2021 a étudié de jeunes enfants français, des adultes français et aussi des personnes adultes non scolarisées, issues de la communauté des Himba, un peuple de Namibie qui a très peu de mots pour parler de géométrie. Cette étude a montré que, indépendamment de leur culture, leur âge et leur éducation, les humains étaient systématiquement capables de reconnaître les formes géométriques régulières. Des tests ont aussi été réalisés sur des babouins et ils ont montré que cette espèce, à l'inverse, était complètement incapable de repérer la régularité des formes géométriques. Donc, si les humains ont cette capacité instinctive alors que leurs proches cousins ne l'ont pas, ça laisse penser que ce serait une compétence spécifique de notre espèce. Pourtant, une toute nouvelle étude parue dans Science Advances nous détrompe. Elle affirme que les corneilles noires seraient également capables de reconnaître la régularité géométrique. Agatha Liévin-Bazin est docteur en éthologie et vulgarisatrice scientifique.
C'est une famille d'oiseaux dont on sait depuis plus de 30 ans, 40 ans, voire plus, qu'elles sont extrêmement futées. Elles ont une excellente mémoire, elles apprennent vite, donc ce sont d'excellents sujets pour ce genre de tâches d'apprentissage assez rapide. Dans l'étude, ils ont testé deux mâles corneilles noires, donc un animal de 11 ans, un autre de 10 ans. Donc ce sont des animaux avec lesquels ils travaillent depuis plusieurs années, qui sont habitués à ce type d'expérience. Et au niveau du protocole, en fait, donc ces oiseaux, donc ils sont testés un par un, ils sont placés sur un perchoir, ils ont face à eux donc un écran. Et ensuite, on présente à l'oiseau six formes qui s'affichent sur l'écran, par exemple cinq étoiles et une lune, ou alors 5 carrés et un carré légèrement déformé, et l'oiseau doit détecter quel est l'intrus parmi les 6 formes.
Lorsque l'animal trouve la bonne forme, celle qui diffère des 5 autres, on lui donne une friandise, des graines, ou alors un délicieux verre de farine. Et s'il se trompe, l'écran devient noir pendant quelques secondes et il doit attendre avant qu'on lui propose un autre test. Les deux animaux ont beaucoup été testés, plusieurs milliers de fois chacun, et ils obtiennent tous les deux un taux de réussite statistiquement bien supérieur au hasard. Donc les corneilles ne cliquent pas n'importe où sur l'écran, elles savent ce qu'elles font. En clair, les oiseaux arrivent plutôt bien à distinguer l'intrus au milieu des 6 formes, et on peut ajouter que leur performance varie en fonction des formes géométriques. Les corneilles sont meilleures pour distinguer les carrés et les trapèzes isocèles, tandis que la forme qui leur pose le plus de difficultés est le losange. Et ça, c'est assez amusant puisque l'étude de 2021 avait montré que chez l'humain aussi, le losange est la forme dans laquelle il était le plus difficile de repérer les irrégularités. C'est la première fois qu'on découvre cette capacité chez une espèce animale non humaine, et ça pose des questions auxquelles il est difficile de répondre sur l'apparition de cette compétence, par exemple, ou encore sur son intérêt évolutif.
On peut se dire que ça peut aider, par exemple, les oiseaux pour la navigation, hein, comme on le pense, par exemple, avec les pigeons. On peut se dire que de savoir reconnaître des formes géométriques régulières dans leur environnement, ça peut leur donner des points d'orientation, des repères. Mais pour être tout à fait honnête, pour l'instant, vraiment, on n'en sait rien du tout. L'étude a été menée en laboratoire avec un petit nombre d'individus. Il y a seulement 2 oiseaux qui ont été testés. Donc, ça serait sans doute pertinent d'essayer de le tester avec un plus grand nombre d'individus et peut-être dans un contexte un petit peu plus proche de la vraie vie des oiseaux. Est-ce que dans leur milieu naturel, ça peut leur servir? Ça reste une question voilà, complètement ouverte, donc il y a encore plein de travail à faire là-dessus. Cette vision où l'on part d'un comportement humain et on regarde ce qu'il y a chez les autres animaux, on en est revenu parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours les questions les plus pertinentes pour comprendre le monde dans lequel vit l'animal. Et c'est vrai que l'éthologie d'aujourd'hui, on essaye de comprendre ce que c'est d'être dans la peau de cet animal et d'adopter une perspective qui est différente.
En faisant le choix d'étudier cette compétence spécifique de reconnaissance géométrique, cette étude nous parle plus de nous-mêmes, en fait, c'est-à-dire de la spécificité des êtres humains que des capacités et du mode de vie des corneilles noires. Et on voit là un des nombreux biais de l'activité scientifique dont les résultats dépendent très largement de la façon dont on pose la question de départ. L'étude demeure néanmoins intéressante et elle mériterait d'être approfondie et appliquée au mode de vie des corneilles pour nous permettre de mieux les comprendre et de mieux les protéger.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD. Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Louanger, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Ali Ruyère-Thompson. À la réalisation, Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Nicolas Delmas. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.